Bonjour à tous et bienvenue à Champ contre Champ, émission présentée par l'association Profil qui vous propose son regard mensuel sur le cinéma. Émission qui sera présentée par moi-même, Jean Lot, et j'aurai à côté de moi Françoise Lot. Bonjour Françoise.
Bonjour à tous.
Jean-Michel Ducaire, bonjour Jean-Michel.
Bonjour Jean.
Et Jean Mitkowski, bonjour Jean.
Bonjour tous.
Au fond, quand on prépare cette émission, on se heurte toujours au même dilemme. Faut-il rendre compte des films dont tout le monde parle et ajouter notre modeste éclairage à l'illumination dont ils bénéficient déjà ? Ou bien devons-nous mettre l'accent sur des œuvres exigeantes que la faiblesse de leur distribution et le silence médiatique condamnent à une disparition rapide ? En fait, notre approche à champ contre champ est autre. Nous essayons de résister aussi bien aux voix tentatrices et trompettes de la renommée qu'à l'appel, parfois culpabilisant, du silence. Et nous choisissons parmi les films du mois ceux qui nous paraissent les plus intéressants au plan de l'expression cinématographique. C'est ainsi que nous avons retenu pour ce mois un auteur américain très connu, Woody Allen, son dernier film Wonder Wheel. Un auteur français qui, lui, n'est pas suffisamment connu, Emmanuel Finkiel, qui vient de réaliser La douleur d'après le livre éponyme de Marguerite Duras. Et un réalisateur tchadien, déjà reconnu, bien que dans un cercle encore limité, il s'agit de Mahamat Saleh Haroun, dont le film « Une saison en France » vient de sortir. Et on va donc commencer par ce dernier. Une saison en France, donc. Mahamat Saleh Haroun est né à Abéché, au Tchad, en 1961. Il vit en France depuis 1982. C'est le premier réalisateur tchadien de l'histoire. Il a une formation de journaliste et de cinéaste. Le premier film à le faire connaître a été « Abouna » en 2002. Ensuite, il y a eu « Darat » en 2007. Puis en 2010, « Un homme qui crie » qui reçoit le prix du jury à Cannes. Et en 2013, « Gris-gris », lui aussi sélectionné à Cannes. Alors s'il y a une toile de fond générale à tous ces films, c'est la guerre qui a ravagé le Tchad. Soit que Mahamat Saleh Haroun en montre les violences, soit que, comme dans « Gris-gris », il décrive un pays en pleine reconstruction. Avec une saison en France, il tourne l'histoire qui se passe en France et non plus dans son pays pour la première fois. Jean, est-ce que ce changement de lieu, avec ce changement de lieu, Mahamat Saleh Haroun a changé de cinéma ?
Eh bien, oui et non, car on retrouve dans ce film beaucoup de cinéma typiquement français. Mais l'Afrique n'est quand même pas bien loin, d'abord et surtout, puisque les personnages principaux sont africains. Abbas, le protagoniste central du film, a fui le Centrafrique avec ses deux enfants et tente de se rebâtir une vie en France. L'existence n'est pas simple pour se réfugier en attente d'un permis de séjour permanent.
Un tel sujet n'est pas fréquent au cinéma.
Non, c'est pas fréquent. Et les rares films qu'on a vus sur les migrants, jusqu'à présent, parlaient surtout du dur voyage vers l'Europe, comme Hope de Boris Logjin ou encore La pirogue de Moussa Touré. Le film de Mahamat Saleh Haroun s'attaque à la difficile intégration en France. Le réalisateur préfère le terme de réfugié à celui de migrant, car il y a le mot refuge dans réfugié, et c'est bien de cela dont parle le film. Seul, ayant un Africain ayant vécu, tel le réalisateur, l'exil, pouvait aborder ce sujet avec autant de vérité. Au début, Abbas et ses enfants vivent dans un appartement prêté par une âme compatissante. Toute trace de misérabilisme est absente. Les enfants vont à l'école, leur père part à l'aube pour travailler et tous parlent un français impeccable. Le père étant un ancien professeur de français à Bangui. Il est accompagné de son frère, Étienne. Celui-ci, devenu vigile alors qu'il était professeur de philosophie dans son pays, vit mal cette déchéance qui lui est imposée. Mais globalement, la vie s'écoule paisiblement. Tous rêvent d'une vie normale et presque, et pourquoi pas avec Carole, une Française d'origine polonaise. Haroun en profite pour faire un parallèle entre les réfugiés juifs en 1938 et ceux de maintenant. Tous veulent savoir de quoi demain sera fait pour enfin pouvoir se conduire sur le long terme.
Enfin, pour le moment, tout est là de bien se passer. Il n'y a pas de drame.
Non, il n'y a pas de drame. Mais, et une situation sinon stable, du moins vivable. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais dans la deuxième période du film, la situation va changer, avec le rejet du permis de séjour d'Abbas. Ce qui intéresse alors le réalisateur, c'est d'analyser les réactions de ces personnages, quand ils sont confrontés, au sein du pays qui les accueille, à une autre violence, à savoir celle d'une administration aux règles opaques qui menace à tout moment de les expulser, après les avoir laissés s'intégrer jour après jour. Les scènes tournées à la Cour nationale du droit d'asile sont particulièrement édifiantes, car elles montrent l'inhumanité de l'administration qui pousse certains réfugiés à des actes extrêmes, comme le frère d'Abbas qui va simuler par le feu. durant cette saison d'hiver, alors qu'ils sont ballottés d'appartement en appartement et soumis au bon vouloir des autorités, leur situation se dégrade, malgré la bonne volonté de certains Français, notamment de Carole, qui est prête à accueillir à bas ses enfants.
Mais en quoi ce film peut-il être qualifié d'africain ? Est-ce que tu peux préciser ce point ?
Oui, parce que y a beaucoup de traits qui sont typiquement africains, en particulier les rapports des personnages entre eux, qui relèvent de la culture africaine, en particulier ceux du père et de ses enfants. Il leur montre beaucoup d'amour et les enfants ont en retour beaucoup de respect pour lui. Ses décisions et ses choix ne sont pas remis en question. Ainsi, les enfants ne posent aucune question, car Abbas leur dit qu'il dort avec Carole. On peut aussi parler de la présence surnaturelle de la mère, qui ressemble à de la magie. Tout cela en fait un film basé sur les deux cultures, et cela augmente bien sûr son intérêt. Le film n'a pas de conclusion visible. La dernière scène se situe dans la jungle de Calais, après qu'elle ait été, comme on dit, vidée et nettoyée, ce qui la rend encore plus angoissante.
Enfin, il est certain que la situation développée dans ce film est souvent poignante. Mais Jean-Michel, est-ce que toi aussi tu étais empoigné par l'émotion ?
Oh, pas vraiment empoigné par l'émotion. Je trouve que c'est un film très intéressant parce qu'il est vraiment inséré dans la réalité d'aujourd'hui, montre le quotidien de cette famille. Pour mon goût, peut-être pas assez inséré dans la problématique générale des réfugiés en France. Mais enfin, après tout, il a le droit de pas faire un film complètement militant.
Il a choisi un créneau bien, bien spécifique. Il n'a pas voulu s'en détacher, quand même.
Oui, mais le résultat, c'est que on attend un petit peu les événements qui vont se produire et que, pour ma part, en réponse à la question posée, l'émotion n'est pas très forte et je suis moins captivé que je ne l'étais par certains films précédents du même réalisateur.
Françoise, est-ce que toi, tu as été captivée ou pas ?
Oui, alors captivée, malheureusement pas. En fait, j'ai lu quelque part quelqu'un écrire « C'est un film qu'on aimerait aimer ». Et c'est tellement exactement ce que j'ai ressenti que j'ai recopié cette phrase d'un critique dont j'ai oublié le nom, « Un film qu'on aimerait aimer », qui pose de vraies questions. Qui traite en effet un sujet poignant, à savoir l'accueil, l'état d'esprit qui règne face à aux immigrés qui arrivent chez nous. J'ai été très touchée par la phrase d'Abbas qui dit « on n'a plus de pays ». Mais j'ai été gênée par la réalisation du film. J'ai beaucoup aimé Darat, j'étais très contente d'avoir un film de Ahmad Saleh Haroun, mais j'étais déçue par la réalisation. Je trouve que le jeu des acteurs est souvent un peu gênant, qui récite le rôle, en particulier la petite fille qui dit « Tu nous as dit qu'on serait bien accueillis en France, tu nous as menti ». Et plus d'une fois arrivent dans le film des réparties qui ont été apprises par cœur et récitées. C'est souvent le cas dans certains films africains, et moi ça m'a gêné. Ça manque de crédibilité, t'as pas trouvé des fois ?
Oui, c'est le côté français du film qui est un petit peu gênant, ça c'est sûr.
Oui, je crois qu'il y a quand même pas mal. Moi j'étais à la fois irrité et touché par ce film.
Oui, oui.
Irrité un peu pour dire Françoise, parce que je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de banalité dans pas mal de scènes, beaucoup de choses très, très attendues, un certain nombre d'invraisemblances.
Oui, mais il a quand même eu le courage de faire ça, et c'était pas mal, il fallait le faire quand même.
Oui, il faut lui rendre hommage sur ce plan-là, je suis d'accord avec toi. Mais la réalisation, tu vois, j'ai moi l'impression qu'il fait arriver trop d'événements épouvantables sur deux personnes, sur Abbas et sur son frère Étienne, et un catalogue des malheurs et des tragédies qui arrivent sur les familles d'immigrés, et ce catalogue semble avoir été réduit sur la tête de ces deux personnes qui arrivent en France. C'est trop. Maintenant, j'ai lu que le suicide par le feu d'Étienne, c'est en effet la reprise d'un événement dont moi j'avais pas entendu parler, à savoir
à la cour.
D'un Africain qui s'est immolé par le feu parce qu'il n'avait pas reçu l'autorisation de rester en France. Mais il me semble qu'à certains moments, on tire sur le pathétique, sur les larmes. Je ne sais pas, vous l'avez ressenti aussi, et c'est un peu...
T'as un peu raison, mais d'un autre côté, il fallait parler de ce sujet. Et il y en a si peu qui parlent de ce sujet que ça valait le coup quand même. de mettre en valeur.
C'est vrai que le sujet est peu abordé. Et que,
J'ai le sentiment que cette famille faisait pas. C'était un peu invraisemblable, tellement elle est occidentalisée, tellement un niveau de vie qui est difficilement compatible avec le travail d'Abbesse qui consiste simplement à porter des cajots
seulement au début, parce qu'on leur a prêté un joli appartement pendant quelques semaines, je crois. C'est ça.
Oui. Ah. Mais c'était quand même un intello, hein, Abbas.
Oui, tout à fait.
Oui, il a choisi un prof de français, un prof de philo. Mais quand Abbas, par exemple, qui décharge des cajots de légumes dans les marchés, quand par fureur il donne des grands coups de pied dans les cajots et que sa patronne lui dit t'es viré, ça sonne faux. On se dit, mais il y a un truc qui va pas là. Ça m'a paru pas crédible.
On n'a pas parlé de Sandrine Bonnaire.
Oui.
Ah. Oui, qu'est-ce que t'en dirais ?
Eh bien, c'est à la fois la richesse du film et en même temps la difficulté à montrer une star dans un film de ce genre.
Oui, c'est vrai.
Elle se prend très... Enfin, je crois qu'elle a pris très à cœur son rôle, quand même, manifestement.
Ouais. Et puis, je trouve très touchante la relation entre Abbas et Carole. Cette incapacité qu'a Abbas de s'attacher au début parce qu'il reste attaché à un fantôme, et cette volonté qu'elle a, elle, d'amener Abbas à l'aimer, ça je trouvais très, très touchant.
Mais on en revient toujours à la dichotomie entre la France et l'Afrique. Quoi. C'est un cinéaste africain qui essaye de faire un film français. Et c'est vraiment pas facile pour lui, c'est
évident. Tu penses que c'est parce qu'il fait un film qui est tourné en France que s'il faisait un film tourné en Afrique, comme c'est le cas de Darat, il serait plus...
C'est pas le même, c'est manifestement pas le même.
Ouais, peut-être bien... Surtout que cette apparition de sa femme qui a été donc
tuée... C'est très beau. C'est très fort. C'est l'apparition de
Mais ça, c'est l'Afrique.
Ça, c'est l'Afrique.
Là, ça fond, je trouve.
Voilà. Ouais. À ce moment-là, on se dit, on est en Afrique, puis finalement, non, on n'y est pas.
Oui, mais c'est le cauchemar du début du film, là aussi, qui montre qu'il y a, qui reste marqué par...
Oui, voilà, on la voit deux fois.
La disparition de sa femme, oui.
Dans le spectacle.
Et puis une chose que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est la tension dramatique provoquée par la butée de temps. On sait qu'il a tant de temps devant lui pour résoudre son problème. C'est un peu comme un thriller où on sait qu'une bombe va exploser à la fin et on a tant de temps. Et là, c'est pareil. Et tout ça bien scandé par trois balises successives. Et ça, je trouve c'est très bien.
Il monte bien l'angoisse quand même. Alors que la première partie est plutôt plan-plan, hein. Enfin, c'est un bon petit...
Un peu
sympa, quoi.
Un peu long,
oui. Mais après, quand même, c'est ça.
Il
met la pression.
Il met la pression.
Ah oui, il met la pression.
C'est un film à encourager. Ouais. Il est imparfait, mais c'est un film qu'il faut encourager. Voilà, je crois qu'on...
C'est ce que tu disais au début. Il faut montrer de temps en temps des films qui sortent un peu de l'ordinaire.
Oui, absolument. Et c'est un film qu'il faut soutenir, même s'il a des imperfections. Il faut le soutenir. C'est un film qui est important.
En signalant aussi la musique, la richesse de la musique de ce compositeur sénégalais, Oasis Diop, qui est connu et qui fait là un accompagnement tout à fait estimable images.
Oui.
Eh bien, on va passer à un film alors, tout à fait opposé, c'est difficile. Leur proximité, ben, c'est curieuse. Je vais parler de La douleur de Marguerite, de Finkiel. Donc, film d'Emmanuel Finkiel, ancien assistant de Godard et de Kieslowski. Emmanuel Finkiel, il a 56 ans. C'est un auteur trop rare, à mon avis. Et c'est pour moi, c'est également certainement un des meilleurs et des plus exigeants cinéastes français actuels. Trois films se dégagent de sa filmographie. Trois films seulement, ce qui prouve quand même qu'il n'a pas énormément tourné. Voyage en 1999, film bouleversant sur des survivants de la Shoah. Nulle part terre promise en 2009, récit des déplacements à travers l'Europe de trois personnages en quête d'une terre où vivre. Et Je suis en 2012, documentaire consacré à trois victimes d'un accident vasculaire cérébral. Alors, c'est à la guerre, c'est à l'occupation et à la déportation que retourne aujourd'hui Finkiel avec La douleur, film adapté de l'ouvrage éponyme de Marguerite Duras, paru en 85. Mais peut-on adapter Duras ? Là où en 1992, Jean-Jacques Hano s'était pas mal planté en portant l'amant à l'écran, Emmanuel Finkiel est-il plus convaincant ? Françoise, est-ce que pour toi, La douleur est un film durassien ?
Éminemment durassien. Porter à l'écran un texte de Duras, on sait que c'est une gageure, un défi, une provocation. Parce que Duras, c'est Duras, et que les mots qu'elle écrit, eh bien, ils contiennent bien plus qu'eux-mêmes. Ils sont porteurs de l'indicible. Et il se trouve que Finkiel a su relever le défi parce que ces images contiennent, elles aussi, bien plus qu'elles-mêmes. Et sont, du fait, en résonance profonde avec l'univers durassien. Les images de Finkiel restituent toute l'ambiguïté du discours de Duras. Elles en sont, je dirais, la très subtile transposition. À mes yeux, c'est un film admirable qui célèbre la rencontre entre un très grand écrivain et un très grand cinéaste. Finkiel, ici, je dirais qu'il est l'égal de Visconti lorsqu'il adapte La mort à Venise de Thomas Mann et de John Huston dans Jean de Dublin, adapté de James Joyce.
Bon, c'est un film sur la mémoire, hein, revisité longtemps après l'occupation, la déportation. Peut-on y voir un document historique ou politique qui nous éclaire sur cette période-là ?
Bon, le film nous ramène en effet à une période dramatique, hélas bien réelle, de notre histoire. Donc il peut sembler réaliste quand il restitue les images d'un Paris occupé par les Allemands, l'atmosphère, les uniformes, les Parisiens dans la rue. Mais à mes yeux, il n'y a pas l'ombre d'une reconstitution. Tout est décalé, recréé par le jeu de la caméra, par l'utilisation de longues focales en particulier, l'utilisation du flou, des reflets, ce qui crée une mise à distance, un sentiment de d'étrangeté, une forme de flottement. En juin 44, Duras a 30 ans. Et c'est là qu'elle commence à écrire les cahiers de guerre parce que son mari Robert Anthelme, résistant, vient d'être arrêté en plein Paris par la Gestapo. Et Marguerite va tenir ce journal tout au long de la disparition de son mari, donc pendant presque une année. Il va revenir, mort-vivant, en mai 45. Et le film s'inscrit dans cette durée. Finkiel met en image les deux premiers textes, en inversant leur ordre, du recueil La douleur, publié par Duras 40 ans plus tard. Tout d'abord, donc, Monsieur X dit Pierre Rabier, c'est le gestapiste, qui est magistralement incarné par Benoît Magimel. Puis vient donc La douleur, qui est la nouvelle principale du recueil. Marguerite est jouée par Mélanie Thierry. Hommage lui soit rendu pour une interprétation magistrale. Son jeu, sa présence à l'écran lui valent, à mes yeux, une admiration sans borne. Dionis Mascolo, le compagnon, est très finement interprété par Benjamin Biola.
Donc, ne pas chercher un document historique dans ce film. Alors, qu'y trouve-t-on ?
Eh bien, précisément ce qu'on trouve partout chez Duras et qui semble avoir fasciné Finkiel, à savoir les errements de la mémoire blessé, de la mémoire revisitée, incertaine, celle qui s'épuise en aller-retour en vue de retrouver une forme d'apaisement. La douleur, c'est le seul thème du film, ni rien chercher d'autre. C'est une douleur à plusieurs étages. D'abord celle de l'attente, celle de la présence obsédante de l'absent. Marguerite est filmée dans la demi-obscurité de son appartement, rue Saint-Benoît, à Saint-Germain-des-Prés. Tout volet fermé, on la voit qui erre du salon à la cuisine. Elle fantasme son mari sonnant à la porte, ils s'étreignent comme des fous. Mais tout est faux. Mais tout est faux parce qu'en avril 45, alors que des centaines de prisonniers reviennent des camps, lui n'est toujours pas là. Mais cette douleur est bien plus vaste encore, perverse, mêlée de honte. Quand Marguerite se voit entretenir une relation trouble avec le gestapiste qui prétend pouvoir améliorer la détention de son mari. Et la douleur devient insoutenable quand, lors du retour tragique de Robert Anthelme, Marguerite sait qu'elle en aime un autre. Le film se clôt comme le récit. Il n'est pas mort au camp de concentration.
Alors Jean, toi, est-ce que tu as l'impression de voir un film historique sur l'occupation ou un film sur la douleur de l'absence et du manque ?
Ben écoute, moi je suis très partagé sur ce film en fait, hein, parce que la première partie me satisfait pleinement. J'ai pas lu le bouquin, hein, il faut le dire tout de suite. Et la première partie me satisfait pleinement parce que c'est une formidable confrontation entre Marguerite et le gestapiste. De fortes personnalités, très bien jouées. Par contre, après la libération, je me suis franchement ennuyé. Quand on voit cette femme qui va, sa douleur, sa douleur, sa douleur. Bon, et puis en plus, Elle couche avec le meilleur ami de son mari pour calmer sa douleur. C'est pas quand même trop sympathique, je trouve.
Serais-tu moraliste? Mais là, quand tu dis ça, ce que tu as vu dans le film et aimé, c'est la partie historique, justement. Tu vois, l'occupation de Paris, c'est ça qui t'a plus intéressé, sans doute.
Oui, peut-être.
Dans la première partie, c'est pour ça.
Oui, ce sont deux parties apparemment complètement différentes, mais qui, en réalité, traduisent l'ambiguïté de ce qui se passait à l'époque.
Ce sont deux nouvelles différentes, d'ailleurs.
Ce sont deux nouvelles différentes. Il y a même deux autres petits passages dans le livre de la douleur. Mais non, ce qui est très intéressant, c'est de montrer que rien n'était simple, tout était complexe, tout était ambigu. Et c'est bien ce que tu viens de traduire par ton commentaire. Non, pour ma part, moi, je fais mien tout ce qui a été dit excellemment par Françoise sur ce film qui m'a vraiment ému. Alors cette fois-ci, une émotion très forte à cause de toutes les prestiges, les sortilèges de l'image et la façon dont, à cette première partie, qui d'ailleurs pourrait très bien être placée d'une façon différente, mais qu'elle a choisi de mettre en premier, montre combien elle était, combien l'auteur était écartelé entre sa douleur réelle, mais en même temps sa tentative, qui est un véritable défi, d'essayer de faire participer dans cette première partie le gestapiste à la libération de son mari. Et elle-même est entraînée dans des sentiments très ambigus, parce que l'attirance entre lui et elle est d'une certaine façon réciproque.
Oui, mais c'est toute l'ambiguïté de Duras qu'on retrouve dans tellement de Duras. Est-ce qui fait la force de Duras? Et moi, je veux dire, moi, j'ai beaucoup aimé ce film, mais je reconnais, je trouve qu'il pose quand même un gros problème. Je crois que pour vraiment l'apprécier, il faut avoir lu le livre de Duras.
Et non seulement l'avoir lu, mais je crois qu'il faut, il faut entrer dans l'univers
de En général, quand on parle d'une adaptation littéraire, on suppose qu'on peut voir le film sans connaître le film, sans connaître le livre. Or là, je trouve qu'on ne goûte le film que si on a vu le livre.
Oui, mais on peut le lire après. Ça peut donner envie de le lire.
On te conseille vivement.
D'accord, okay. Vous parlez,
moi, ça m'a donné envie de le relire.
Il y a quand même quelque chose qui m'a aussi déplu, c'est la technique. Par exemple, cette voix off. Voilà. Moi, la première fois que j'entends une voix dans un film, c'était Hiroshima, mon amour, dont le scénario était de Marguerite Duras. Oui. Rappelons-le quand même. Et cette voix off, Hiroshima, ça a été un émerveillement pour moi. Et là, je trouve que ça passe mal. Il y en a trop, c'est trop long. Et c'est flou, toujours c'est flou. Mais je ne sais pas pourquoi il a fait ça tout le temps, cette focale tout le temps en train de
mais
se
balader.
Mais c'est justement une contribution. Duras, c'est toujours le flou, Duras. C'est dans l'ambiguïté. Oui. C'est jamais du blanc et du noir.
Oui, mais quand tu n'as pas lu le bouquin,
c'est pour ça que je dis qu'il faut...
Mais qu'est-ce qu'il fout, ce mec?
Oui, il faut avoir lu le livre. D'une part, le livre apporte des compléments d'information qui ne sont pas dans le film. Et d'autre part, on se rend compte de l'adaptation parfaite qu'il y a entre le livre et le film.
Oui, mais enfin, c'est pas normal d'avoir sans avoir lu le bouquin. Franchement, je suis pas d'accord.
Ce que je voudrais dire aussi, c'est que Marguerite Duras s'interdit, Finkel, s'interdit de montrer le retour en chair.
Et comment?
Et quelle chair?
Heureusement.
Et surtout en os de Robert Antelme, pour une bonne raison, c'est qu'il veut laisser planer tout le poids que représente le retour des personnes de camps de concentration et indirectement le refoulement qui va avoir lieu pendant toutes les premières années. Et je trouve que ça, dans l'omission, c'est extrêmement fort.
T'as raison pour le dernier flou, mais pas pour les autres.
Mais si tu lis Duras, tu vas voir que Finkel en fait vraiment. Il trouve des résonances, il trouve des concordances entre l'ambiguïté du texte et l'image
à revoir et à en reparler.
Je lirai le bouquin.
Okay. Bon, on va profiter d'une petite pause musicale. Tu as le temps de lire le livre pendant la petite pause musicale. Nous allons maintenant passer à Wonder Wheel de Woody Allen. Woody Allen, c'est 52 films en 50 ans de carrière, 52 films qu'il a entièrement écrits et réalisés, dans lesquels il a pendant longtemps joué le rôle principal. On reste assez stupéfait devant une telle créativité. On dit parfois « oui, mais fait toujours le même film », ce qui est faux. Il y a un style Woody Allen, un ton Woody Allen, mais à chaque fois mis au service de sujets et de genres différents. Toutefois, s'il y a un thème qui revient de façon assez récurrente dans cette colossale filmographie, c'est celui de l'évasion dans l'imaginaire, la folie et même la magie pour échapper à une vie médiocre et décevante. On peut par exemple citer La Rose pourpre du Caire, Midnight in Paris, Blue Jasmine, Magic in the Moonlight. Mais il me semble que Wonder Wheel appartient à ce courant. Mais cette fois, Jean-Michel, ne s'agit-il pas davantage de désenchantement que d'enchantement ?
Oui, c'est juste. On peut effectivement voir ce film qui évoque avec théâtralité et panache les grands dramaturges américains des années 50, qui étaient Tennessee Williams et Eugene O'Neill, comme un mélodrame décalé et désenchanté. Les quatre personnages prisonniers de leur comportement ne tournent-ils pas dans cette roue magique comme des rats de laboratoire ? Le scénario très épuré et très raffiné de Wonder Wheel fait se croiser dans l'effervescence des années 50 du parc d'attractions new-yorkais de Coney Island, à l'extrême sud de Brooklyn, les trajectoires sentimentales de Ginny, ex-actrice ratée, un peu givrée, qui a dû se reconvertir en serveuse de bar et ne cesse de déplorer sa vie minable. Humpty, opérateur de manège marié à Ginny, qu'il a sorti de sa dépression. Mickey, séduisant maître nageur aspirant à devenir dramaturge. Et enfin Carolina, la grande fille de Humpty, longtemps disparue de la circulation et qui se réfugie inopinément chez son père pour fuir les gangsters envoyés à ses trousses par son malfrat de mari. Ainsi, une fois de plus, et après Blue Jasmine en 2013, Woody Allen s'attache-t-il à la peinture de femmes en situation critique ?
Donc on a affaire à un mélodrame ou une comédie mélodramatique comme l'auteur en a le secret, avec des femmes perturbées. Mais cette recette reste-t-elle efficace, Jean-Michel ?
Eh bien oui, parce que comme toujours, les caractères sont complexes et émouvants. En particulier le personnage déjanté, mais non pas hystérique, de Ginny, admirable Kate Winslet, qui exprime toutes les nuances d'une femme déçue par la vie, mais capable de mobiliser son énergie vitale pour tenter de rebondir, sœur lointaine des héroïnes néo-réalistes du cinéma italien. Mais les autres personnages aussi, Justin Timberlake est l'archétype du maître nageur adoré des femmes, beau parleur flamboyant, qui fait basculer Ginny dans le monde magique d'un amour fantasmé. James Belushi, le brave type à la fois violent et tendre, écartelé entre Ginny, sa compagne, et Carolina, sa fille prodigue et menacée. Et celle-ci, ravissante Juno Temple, est une adolescente fourvoyée, prise au piège de son désir d'indépendance. Cependant que ce fascinant quatuor entre amour et trahison tourne dans la roue de la vie où chacun se cogne et se blesse.
C'est émouvant, ce quatuor paraît quand même engagé dans une histoire bien sombre.
Certes, on pourrait ne voir ici qu'un film noir, grinçant et désespéré, ce qu'il est par certains de ses côtés autobiographique. Mais l'humour de l'auteur transparaît cependant à plusieurs niveaux de décalage. L'enchevêtrement des images réalistes et poétiques, l'attribution à Mickey du rôle de narrateur, la présence aux côtés de Ginny d'un certain Richie, qui est fils de son premier mariage, pyromane imperturbable. Impossible de terminer sans souligner combien la mise en scène doit à une reconstitution historique des décors, à la théâtralisation des lieux par les éclairages et la palette de couleurs proposée par Vittorio Storaro, le chef opérateur, qui est un registre de tons chauds pour Ginny et une gamme de bleu clair pour Carolina. Enfin, à la magnifique partition musicale, pop et jazz, qui ponctue certaines séquences et qui, comme souvent, comme toujours chez Woody Allen, a une réelle importance dans la réception du film.
Françoise, toi qui fais partie des inconditionnels de Woody Allen, as-tu le sentiment de te trouver devant un grand Woody Allen ?
Moi, je suis très malheureuse. Je suis très malheureuse parce qu'en effet, je fais partie des fidèles de Woody Allen depuis toujours, depuis la première heure. Je crois que j'ai vu peut-être tous les 52 films, je sais pas, mais c'est comme si je les avais tous vus. Et je suis toujours ravie quand j'entends qu'un nouveau film va sortir. Donc là, je m'y suis précipitée. Je dois dire que la grande vague n'est pas venue, ne m'a pas emportée. Je suis restée sur le sable de Coney Island, je sais pas, mais j'étais un petit peu déçue. Je vais dire ce que j'ai aimé, parce que j'aime trop Woody Allen pour ne pas le dire. J'ai aimé l'ambiance du film et en particulier les lumières qui sont extraordinaires dont tu as parlé. J'ai aimé cette idée d'appartement dans laquelle se joue ce drame, parce que cet appartement qui donne directement sur la fête foraine, une idée géniale. On a l'impression que il y a une telle différence entre le drame qui se joue et puis la fête foraine avec cette musique entraînante. J'ai trouvé que c'était une idée merveilleuse, le contraste entre les deux. J'ai aimé la musique, j'ai aimé la photographie, j'ai aimé également tout ce qui rejoint le thème, l'un des thèmes principaux de Woody Allen, c'est-à-dire le rêve, l'imaginaire qui nous nourrit, qui nous fait vivre. Donc ces personnages vivent tous un rêve. Mais j'ai pas retrouvé ce que j'aime chez Woody Allen en général, qui est surtout, non seulement l'imaginaire, mais la dérision.
Oui, et toi, Jean, qu'est-ce que tu as aimé, pas aimé dans ce film?
Moi, je suis aussi un inconditionnel, et j'ai quand même, je suis pas resté sur le sable, hein, comme Françoise, j'ai mieux participé à ce film, et je me suis entré dedans plus facilement. Parce que chaque fois que je rentre dans un film de Woody Allen, c'est toujours le même émerveillement, c'est toujours la même poésie, la même douceur, l'amour des femmes, incomparable l'amour des femmes. On nage dans le bonheur en regardant ce truc. Chaque fois, on pourrait rentrer au milieu d'un film, on dirait « Ah, ça, c'est du Woody Allen ».
Tout à fait.
Oui, absolument. Oui.
Quand on voit une bande-annonce, on reconnaît quand c'est une bande-annonce.
On reconnaît. Alors, il y a la musique, bien sûr, toujours la musique, hein, le jazz, toujours. Il y a la psy. Il faut toujours qu'il y ait un psy dans les films de Woody Allen.
On en voit beaucoup dans celui-là.
Hein, on la voit, elle est nulle, comme en général, tous les psys de Woody Allen. Et il y a le petit garçon pyromane qui est bien sympa. Il y a Mickey, sa voix off. Il y a, même si on comprend pas bien ce qu'il vient foutre là, mais
il
ça va d'avantage.
Il est d'une fadeur sans Mickey. Ouais. Lui qui a toujours des personnages de jeune
il
homme.
Il a des choses.
Ben, il a fait exprès quand même d'avoir ce personnage, cette espèce de belâtre stupide là.
Oui, en fait, moi je veux dire que. On est donc quatre inconditionnels de Woody Allen autour de cette table. Et moi je veux dire que je suis peut-être celui qui serait le plus sur le sable quand même. Enfin, c'est pas tellement critique au film finalement. J'ai trouvé ce film glaçant. Je trouvais que ce film, j'étais totalement incapable d'éprouver la moindre sympathie pour aucun des quatre personnages. À ce moment-là, pour moi, l'empathie n'a pas du tout marché cette fois-ci pour moi le personnage.
Kate Winslet quand même est pas mal.
Non,
elle est pas sympathique. Oh. Hein.
Sympathique non, mais elle joue bien. Elle a une présence terrible.
Malgré leurs caractéristiques, je trouve que justement l'art de Woody Allen, c'est de permettre aux spectateurs une empathie. Moi, j'ai eu une empathie pour chacun d'entre
eux.
Oui,
c'est vrai.
À cause de leurs différences.
Moi, j'aurais bien voulu aimer.
Même le
petit
garçon pyromane.
mais bien sûr, alors que lui, il est dans le registre de l'humour d'une façon extraordinaire.
Ah oui, alors,
et qui est aussi une facette de Woody Allen.
Je n'ai jamais ni ri ni souri dans ce film.
D'habitude, il y a plein d'humour. Zéro humour.
On sourit. Mais c'est,
c'est le film le plus triste, le moins souriant de tout Woody Allen.
C'est glaçant, comme tu l'as dit, oui. Mais en même temps.
Ah, c'est pas du Duras, hein.
Mais il manque, l'autodérision, la distanciation qui permet de ne pas se prendre trop au sérieux. Là, c'est zéro.
Ah, la dérision. Il y en a dans tous les personnages.
Bien sûr, il y en a partout.
On n'a pas vu le même film.
Humpty.
Le personnage qui est le plus intéressant, c'est ce gosse, quoi. C'est ce monde qui brûle tout. Parce que finalement, on a l'impression que dit. On est dans un monde qui est bon à être foutu au feu.
Oui,
on n'y croit pas, ce gosse.
Oui, pas du tout.
C'est
une espèce d'archétype, justement,
Il est fait pour qu'on n'y croit pas, quand même.
Oui, mais en même temps, comme tu le dis, oui, tout est bien et bon à mettre au feu. Il est irréductible. Je trouve que c'est un personnage extraordinaire.
Absolument.
Il court tout le long du film, il ne dit rien.
Attendons le prochain. Bien, maintenant nous allons passer au coup de cœur. Jean, tu crois que je voulais nous parler de Sparring.
Les films sur la boxe ne manquent pas depuis Gentleman Jim de Raoul Walsh en 1942 jusqu'à Raging Bull de Scorsese ou les nombreux Rocky, bien entendu. Mais ce premier long métrage de Samuel Jouy est loin des clichés véhiculés par ses prédécesseurs. Steve n'est pas un champion. 13 victoires seulement sur 49 matchs. C'est un modeste ouvrier de la boxe, mais il aime son métier. Il le fait avec beaucoup de cœur et beaucoup d'amour. Et il le fait surtout pour faire vivre sa famille et pour que celle-ci, en particulier sa fille, lui garde son respect. Ce sont pour ces raisons qu'il va accepter de devenir le sparring partner d'un champion, c'est-à-dire un punching ball vivant, prêt à recevoir tous les coups. Les scènes de combat sont présentes, mais sans tomber dans le voyeurisme, surtout trop fréquent dans les films de boxe. Le film doit beaucoup à la performance de Mathieu Kassovitz. Il est d'une sobriété absolue qui apporte une part d'humanité inattendue à cet homme abîmé, mais résistant. Et sa dignité et son courage le rendent définitivement attachant. La jeune comédienne qui lui donne la réplique éclaire le film d'une intensité vraie et on ne doute pas un seul instant de la véracité du couple. Aurore, la petite fille du couple, joue aussi un rôle. Est-elle douée pour le piano comme le croit son père ? Ou simplement, celui-ci voit-il en elle sa revanche et elle qui aura le truc qui lui a manqué. À signaler aussi que le réalisateur a appris un vrai boxeur, Souleymane Mbaye, pour se glisser dans la peau du champion. Tout cela donne un film très attachant sur une famille, somme toute, très ordinaire.
Oui, puis il faut également oser faire un film de boxe alors qu'il y a déjà eu tellement de faits.
Oui, et celui-là est quand même très spécial.
Et celui-là apparemment intéressant. Oui. Françoise, toi, c'est un juge dont tu vas nous parler. Faut-il d'une juge ?
D'une juge, oui. C'est un documentaire belge de Jean Libon et Yves Inan que je vous recommande vivement. L'affiche nous prévient en disant « c'est pas du cinéma, c'est pire ». Et oui, c'est un film noir, grinçant, qui nous invite dans le bureau de Anne Gruvez, qui est juge d'instruction à Bruxelles. A priori, il n'y a pas de quoi rire, et pourtant si, parce que Madame la juge, qui sillonne les rues de sa ville en deux chevaux bleu lavande, est un personnage hors norme, truculent, doué d'un humour irrésistible, qui va de pair avec une incroyable capacité d'empathie, doublée d'une inflexibilité sans faille face aux menaces proférées par certains prévenus du style « Je vous jure devant Dieu que je partirai en Syrie, ça va péter !» Et un autre qui est furieux qu'on veuille prélever son ADN, elle explique « Je n'en ai peut-être pas l'air, mais j'ai suivi des cours de self-défense et je suis tout à fait capable de vous plaquer au sol, mais je vais d'abord vous assommer. » Par contre, elle va encourager un brave type qui est arrêté pour avoir revendu des conduites en cuivre volées sur un chantier. Elle va l'encourager à refaire sa vie avec une copine et à chercher un travail honnête. Madame la juge ne cache pas sa sympathie, voire sa compassion, pour les losers, pour les prostituées qui, dit-elle, recrutent dans la rue par tous les temps, elles méritent bien leur argent. Sans trop en dire, je veux pourtant noter l'effroi que suscite la dernière séquence où une jeune mère infanticide fait sa déposition, scrupuleusement, en plein délire. Un enfant né, dit-elle, d'un viol ritualisé et que le Dieu leur est ordonné de tuer. Les réalisateurs de ce film sont les pères de la fameuse émission Striptease, diffusée pendant 25 ans sur la télévision belge et sur France 3. Comme son nom l'indique, il s'agissait de mettre à nu ce qu'une télévision très formatée ne veut pas voir porté à l'écran, à savoir la réalité de la société où nous vivons au quotidien, quitte à scandaliser. Le tournage dans le bureau d'Anne Gruvez a duré 3 ans, des centaines d'heures d'enregistrement, une radiographie de la montée de l'anxiété dans nos sociétés face à une inquiétante évolution de la délinquance.
Merci Françoise. Je crois qu'on va passer maintenant d'un documentaire à quelque chose quand même qui s'inspire beaucoup de la réalité, hein, Jean-Michel ?
Complètement. Il s'agit de Pentagon Papers. Il y avait eu Les Hommes du président d'Alan Pakula, grand film de journalisme sur l'affaire du Watergate. Courez maintenant voir le nouveau film de Steven Spielberg qui écrit de façon flamboyante le chapitre précédent, le premier affrontement du journal le Washington Post avec le pouvoir. En effet, en 1971, éclate aux États-Unis l'affaire des Pentagon Papers, vaste fuite de renseignements liés à la guerre du Vietnam, concernant une étude préparée par le département de la Défense et rédigée à la demande de Robert McNamara. Pas moins de 47 volumes totalisant 7000 pages de secret défense. Ces révélations diffusées tout d'abord dans le New York Times accusent 4 présidents des États-Unis d'avoir menti à la nation sur la guerre du Vietnam car ils savaient très tôt qu'ils ne pourraient pas gagner la guerre. Dans Pentagon Papers, Steven Spielberg raconte la difficile décision de publier ces documents à laquelle fait face la très charismatique patronne de presse du Washington Post, Katharine Graham, magnifiquement interprétée par Meryl Streep, qui fait équipe avec un Tom Hanks survolté dans le rôle de son combatif rédacteur en chef, Ben Bradley. Il s'agit là d'un magnifique éloge du journalisme d'investigation, exalté par la maîtrise de la mise en scène d'un réalisateur au sommet de son art, qui déploie toutes les dimensions de cet épisode historique, avec une écriture claire qui ne perd jamais le spectateur et préserve pourtant l'opacité et la complexité des événements. Le film est aussi un très beau portrait de femme, responsable et tragiquement seule.
Oui, je crois que Spielberg restera toujours Spielberg.
C'est splendide.
Étonnant. Mais moi, je voudrais terminer avec un film qui m'a oxygéné le cœur, hein, comme un souffle de vent qui vient d'une autre planète. Hein. Déjà parce qu'effectivement, ce film vient d'un pays lointain et peu connu, le Kirghizistan. Ensuite, parce qu'il est d'une liberté réjouissante dans notre époque qui est de plus en plus corsetée. Il s'agit de Centaure, un film du cinéaste kirghiz Atam Arim Kubat, connu déjà pour le fils adoptif en 98, le singe en 2001, et le voleur de lumière en 2010. Centaure, c'est le nom du personnage central de ce film, joué par l'auteur lui-même. Ancien projectionniste dans une salle de cinéma transformée maintenant en mosquée, il tient de quelque chose comme Don Quichotte, de Robin des Bois, avec sans doute un brin de la mauvaise herbe de Brassens. Dans un pays où le cheval est mythique, ne dit-on pas au Kirghizistan que les chevaux sont les ailes des hommes ? Il vole les plus beaux purs sang dans les élevages des riches propriétaires pour s'enivrer ensuite de folles chevauchées nocturnes dans la steppe, droit sur sa monture et les bras écartés comme s'il s'envolait. Pourquoi fait-il cela ? À la fois par nostalgie de l'époque légendaire de Kambarata, où tous les Kirghizes étaient frères et cavaliers, et par révolte aussi contre ce qu'est devenu son pays, corrompu par l'argent, gagné par le goût du pouvoir et gangrené par l'islam rigoriste. À ce centaure nocturne et voleur de chevaux, je suis personne à un autre centaure diurne et quotidien, époux d'une femme sourde et muette et père d'un fils mutique. Ce dernier ne communique avec son père et ne retrouve la parole que le jour où son père sera abattu par l'homme de main d'un propriétaire chevaux. Le constat est lourd, mais par la grâce de son personnage, fantasque, imprévisible, fou au milieu des gens de bon sens, mais en même temps sage parmi les fous, Atam Arim Kubat fait de son film une œuvre dont la légèreté apparente n'est pas de celles qui réduisent le sujet, mais qui, en prenant de la distance, lui donne relief et gravité. Voici donc venu le temps de nous quitter. Merci à Françoise et à Jean-Michel qui ont animé cette émission. Merci à Arnaud qui en a assuré la réalisation technique. Et merci à tous ceux qui l'ont écouté et que nous espérons retrouver à l'occasion de notre prochaine émission Chant contre Chant qui aura lieu le mardi 27 mars de 13h15 à 14h.